Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Mathieu, Patrick, Mohamed qui est en Ukraine pour suivre la visite du président Emmanuel Macron présent sur place depuis ce matin aux côtés du chancelier allemand et du premier ministre italien avec des gestes et des mots de soutien très forts au peuple ukrainien. On les commente ce soir avec le député européen Bernard Guetta, spécialiste des questions internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir. Patrick, votre édito ce soir.
Je vais vous parler de la canicule, 12 départements en alerte rouge. En juin, ça n'est jamais arrivé. Et les écoliers et les collégiens sont, si les parents le souhaitent, sont dispensés d'aller en classe demain.
Ah, j'ignorais. Merci de cette information. Mathieu, dans le 5 sur 5.
On va parler des enfants encore un peu plus jeunes, les dents des enfants et une alerte des professionnels de santé, des dentistes en particulier. Pas de coca dans les biberons, ce qui peut paraître parfois évident comme ça, mais ça se pratique. Ouais. Pas de jus de fruits non plus. Attention, il y a plus de sucre dans le jus de pomme que dans le coca. Ah, je vous l'apprends.
Je reviens.
Ben oui, c'est un phénomène, le coca dans les biberons. Et c'est destructeur.
C'est une alerte, c'est surtout une alerte parce qu'on va expliquer pourquoi
pour les dents
c'est
des
destructeur
enfants.
Pour leur croissance aussi.
Pierre, dans votre œil ce soir.
Écoutez, sans fausse modestie, c'est un régal ce soir dans l'œil. En fait, non, c'est un film magnifique sur l'œuvre géniale d'Ennio Morricone. Il y a des tas d'anecdotes dingues racontées par le compositeur lui-même qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Le film sort le 6 juillet.
Un œil à 20h, un œil de Pierre Lescure qu'on proposera à un autre musicien, batteur, auteur-compositeur, pape du disco, le pionnier de la French Touch, Cerrone. Faites ses 50 ans de carrière ce soir dans C'est à vous. Le comédien Lucien Jean-Baptiste sera également notre invité du dîner. Dîner préparé ce soir par Rebecca Beaufour, chef propriétaire du restaurant Dante, rue de Paradis à Paris. Pas de lèche de tigre ce soir, non. Mais un agneau, un agneau avec des petits pois.
C'est ça. Donc ce soir, je vous ai préparé un plat qu'on peut retrouver à la carte de Dante en ce moment. C'est un agneau de lait que je sers avec des morilles à la crème, des petits pois et un jus d'agneau bien corsé.
Merci beaucoup, Rebecca. À tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. La canicule s'intensifie. 12 départements sont placés en vigilance rouge.
Ce qui veut dire que la France va vivre l'un des épisodes de chaleur les plus intenses, mais surtout le plus précoce de son histoire. Cela touche la côte atlantique, de la Vendée aux Landes, et l'intérieur des terres, de la Vienne au Tarn et à la Haute-Garonne. 25 autres départements, vous le voyez, sont en vigilance orange. Demain, ce sera la fournaise sur un grand quart sud-ouest avec des 40 degrés fréquemment atteints, voire dépassés par endroits. Ça a déjà été le cas cet après-midi dans l'Hérault. 40 degrés relevés à 16h30 à Saint-Jean-de-Minervois. Record de précocité dans l'Hexagone. Et samedi, ce sera encore pire, Météo France s'attend à voir tomber des records absolus de température, et non plus mensuels, mais absolus. Ça devrait redescendre ensuite dans la nuit de samedi à dimanche, et donc dimanche.
Vous l'avez dit, c'est inédit, 12 départements en alerte rouge.
C'est inédit en juin sur un aussi grand territoire. C'est la 4e fois seulement que le rouge est allumé depuis la création de la vigilance canicule il y a 18 ans, après l'hécatombe de l'été 2003. La première vigilance rouge avait eu lieu fin 2019, mais dans 4 départements seulement. Les deux suivantes, en juillet 2019, avec 20 départements en alerte, et en août 2020, là, c'était le Nord et l'Île-de-France qui avaient suffoqué de chaleur.
Mais les enfants n'étaient plus en classe.
Voilà, et là aussi c'est inédit. Le ministère de l'Éducation autorise les parents qui le souhaitent et qui le peuvent dans ces 12 départements rouges à ne pas envoyer leurs enfants à l'école et au collège et à les garder à la maison. Mais a priori, les établissements resteront ouverts. En 2019, il n'y avait pas eu de consigne nationale, mais les épreuves du brevet des collèges avaient dû être reportées de quelques jours.
Ces épisodes de canicule précoce sont un signe de l'accélération du réchauffement.
Oui, on l'a dit mille fois, mais comme un dessin vaut mieux qu'un long discours. Laissez-moi vous présenter la courbe d'un des plus anciens relevés météo. Ce ne sont pas des températures, ce sont les dates de floraison des cerisiers japonais de Kyoto, consignés depuis l'an 812 et non pas 1800.
Ah oui.
D'ailleurs, comme ça a été écrit, c'est l'an 812. Ah bon, on a fait, voilà, on l'a pris qu'à partir de 1800, mais les relevés datent depuis l'an 800 à cause d'une coutume ancestrale au Japon de pique-niquer sous les cerisiers en fleurs appelés Hanami. Donc la date est relevée et vous voyez que le pic de floraison a longtemps varié entre le 10 et le 20 avril. L'an dernier, le pic de floraison a eu lieu le 26 mars. C'était jamais vu. Cette année, ce fut le 30 mars.
La chaleur fait augmenter notre consommation électrique.
Oui, ça c'est l'effet ventilateur et climatisation. Une pointe de consommation a ainsi été atteinte aujourd'hui vers 12h45 avec plus de 55 gigawatts consommés. La France est obligée d'importer de l'électricité. Situation inhabituelle due à l'arrêt d'une bonne partie de notre parc nucléaire, 27 réacteurs indisponibles sur 56. Le nucléaire ne nous fournit qu'un peu plus de la moitié de notre électricité. Le solaire, lui, marche bien, 14%. Il y a beaucoup de soleil, mais il n'y a pas de vent. Les éoliennes ne tournent pas plus en France qu'en Allemagne, ce qui fait que l'électricité que nous importons est largement produite par du gaz et du charbon. Malgré cela, le courant que nous consommons brûle 4 fois moins de CO2 que l'électricité allemande.
La canicule, sa précocité inédite en France à la une de l'actualité ce soir, mais aussi un voyage qui était très attendu, objet de 1000 rumeurs depuis ce week-end et tenu secret jusqu'à la dernière minute. Emmanuel Macron est donc arrivé ce matin à Kiev, 9h30 heure locale, après un voyage de 10 heures en train depuis la Pologne. Seule une poignée de journalistes accompagnait la délégation, parmi eux Mohamed Bouafsi pour C'est à vous.
Il est 23h, nous sommes à la frontière ukrainienne. Dans quelques minutes, c'est dans ce train que Emmanuel Macron, le président français, Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Mario Draghi, le président du Conseil italien, vont monter 8 à 10 heures de train pour rejoindre Kiev et enfin retrouver Volodymyr Zelensky. Ils vont se reposer dans ce genre de couchettes, des couchettes assez sommaires.
Un message adressé aux Ukrainiens ?
Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet. De soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir. Parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
Nous sommes sur la place Mikhaïlovski, l'une des places les plus célèbres de Kiev et de cette capitale ukrainienne. Vous le découvrez tout autour de moi, des missiles et des chars russes qui sont exhibés à la population ukrainienne pour montrer la force de cette armée de Volodymyr Zelensky.
Heavy weapons now. We need those now. People are dying every day. This is not about feeding Ukrainian army by the teaspoon, all those, oh, we give you 3 artillery pieces. We need those weapons now to stop the war.
Après 20 minutes de voyage depuis Kiev et 26 km, ça y est, le président Emmanuel Macron est arrivé à Irpin. Vous le découvrez, les dégâts sont considérables. 80% de la ville a été détruite juste avant le début du conflit. 62 000 habitants à Irpin, aujourd'hui il n'y a quasiment plus rien.
When the civilian family, only a mother and two children, is in the car, how can it be deliberately shot with no risk to anybody? And we have hundreds of these cases.
We know about this, but yeah. One thing is to know, another thing is to see.
Yeah, absolutely. And,
so we are grateful to you.
L'armée russe a été arrêtée à côté de plusieurs autres villes où des massacres ont été perpétrés et où nous avons eu les premières traces de ce qui sont des crimes de guerre.
On vous a senti très ému devant ces photos de barbarie.
Bien sûr, parce qu'on le voit, parce que je pense que vouloir détruire la vie, détruire des écoles sur le sol européen, il n'y a pas d'autre terme. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter.
Excellent. Thank you.
Voilà pour ces images réalisées par Pierre de Horn, qui est aux côtés à Kiev de Mohamed Bouafsi, qu'on retrouve en direct depuis l'ambassade de France à Kiev. Mohamed, vous avez accompagné le président français tout au long de cette journée. Quelle image en garderez-vous ?
plusieurs images, Babette, et surtout plusieurs émotions et plusieurs sentiments de l'émotion quand on arrive sur cette place Mykhailovsky où on voit ces chars, ces missiles récupérés par l'armée ukrainienne après des combats intenses, des combats terribles, de l'émoi, de l'effroi, ensuite en arrivant à Irpin et en découvrant cette ville à 90% détruite par l'armée russe, en voyant aussi ces photos de corps au sol, ces photos qui ont été postées pour que les dirigeants européens les voient, et cette image de Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz et de Mario Draghi, ces trois chefs d'État devant cette voiture où une famille a perdu la vie. Et ensuite, on va retenir le courage, l'admiration qu'on a pour un homme, pour Volodymyr Zelensky, qui a accueilli les dirigeants aujourd'hui au palais présidentiel. Ce courage aussi pour demander cette adhésion à l'Union européenne. Et ces mots des Ukrainiens, aidez-nous, envoyez-nous des armes. On ne va pas se battre avec des cuillères, on ne va pas se battre avec des fourchettes. On a besoin de la France, on a besoin de vous dans ce combat. Et on va battre la Russie, on va gagner cette guerre face à la Russie.
En ce moment, à l'ambassade de France, Emmanuel Macron rencontre les enquêteurs qui notamment documentent les crimes de guerre qui ont été commis à Irpin ou à Boutcha, les enquêteurs français.
Alors les suiveurs du président de la République, Emmanuel Macron, le savent très bien, il est toujours en retard, il est très souvent en retard. Il est resté à l'hôtel encore quelques minutes parce qu'il participe à une rencontre avec des journalistes ukrainiens et ukrainiennes. Et donc il a préféré rester encore de longues minutes avec eux. Et il va arriver dans quelques minutes, vous le découvrez juste derrière moi, cet accueil protocolaire, puisque le président de la République est accueilli dans quelques minutes par l'ambassadeur de France, Étienne de Poncin, à Kiev. Il va ensuite rentrer dans l'ambassade pour rencontrer des magistrats et des gendarmes français qui travaillent sur ces enquêtes de barbarie, de massacre, de guerre, plus particulièrement sur deux villes, sur ces combats et massacres qui ont eu lieu à Irpin, avec ces images que vous avez vues il y a quelques secondes, et surtout à Boutcha, où on dénombre plus de 1120 morts.
Merci beaucoup Mohamed, on vous retrouve demain sur le plateau de C'est à vous, puisque vous rentrez avec la délégation française dès ce soir par le train puis par l'avion pour revenir à Paris. Merci et à demain sur le plateau de C'est à vous. Bernard Guetta, on vient de voir le visage d'Emmanuel Macron très marqué par ce qu'il a pu voir et entendre à Irpin. Mario Draghi, il a dit, c'est une chose de savoir, c'est une autre chose de voir.
Oui, tout journaliste le sait.
Tout journaliste le sait. C'est ce qu'ont vécu ces trois chefs d'État, là, aujourd'hui.
Ah ben oui, c'était... Moi, j'ai été... Regardez là. Le visage de Macron, c'était absolument vraiment frappant à quel point il était marqué. Il y avait quelque chose de dur, il y avait quelque chose de... Et puis, pendant la conférence de presse, aussi, regardez la bouche, le mouvement des lèvres. Il est... tout simplement choqué. Il est tout simplement choqué, pour ne pas dire horrifié, et à juste titre, évidemment, malheureusement. Bien sûr que oui. C'est déjà, je crois, un des points de l'évolution, de voir ces trois chefs d'État, quatre, puisqu'il y avait le président roumain, mais ces trois chefs d'État, de trois États fondateurs de l'Union européenne et des trois premières puissances économiques de l'Union européenne, qui étaient tous marqués, bien sûr.
Une visite de rattrapage comme on l'a beaucoup entendu dire, parce qu'il y a eu quelques occasions ratées.
Écoutez, une visite de rattrapage sur la forme, oui. Je partage votre avis. Sur le fond, peut-être moins. Parce que, par exemple, quand Emmanuel Macron, à deux reprises, au moins une de trop à mon goût, a dit « il ne faut pas humilier la Russie », qu'est-ce qu'il voulait dire en vérité ? Il l'a très bien expliqué. Heureusement, enfin ce soir ou cet après-midi à Kiev. Il voulait dire, le jour où on arrivera à une négociation de paix, il ne faudra surtout pas vouloir que la Russie ait été l'agresseur ou pas, et elle l'a été évidemment. Il ne faudra surtout pas vouloir la ruiner et l'humilier comme les vainqueurs de la Première Guerre mondiale l'avaient fait avec l'Allemagne, parce que ça avait débouché sur la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on s'en passe. Et là, Emmanuel Macron a 100 millions de fois raison.
Mais c'est il le dit trop tôt, en fait.
Mais vous savez, chaque personne a les défauts de ses qualités. Alors, M. Macron, il pense vite et généralement bien. Mais le défaut, c'est qu'il parle trop vite et pas toujours très très bien.
Un déplacement à Irpin, donc, qu'on vient de suivre avec Mohamed, qui a été suivi d'une rencontre officielle avec Volodymyr Zelensky. 12h45, on voit les images, le président ukrainien accueille un à un les chefs d'État européens. Une rencontre au palais présidentiel et une conférence de presse commune avec une annonce phare.
Notre plus grande force, c'est l'Union. Le statut de candidat à l'adhésion pour l'Ukraine est une chance historique de renforcer la stabilité européenne et peut être une des plus grandes décisions de cette première moitié du XXIe siècle.
Nous avons enfin évoqué ensemble notre volonté de confirmer par les actes, au-delà des mots, que l'Ukraine fait partie de la famille européenne.
L'Italie souhaite en effet voir l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et il faudra faire tout le nécessaire pour qu'à l'unanimité cette décision puisse être adoptée par les 27. L'Allemagne votera pour donner cette perspective positive à l'Ukraine.
Accorder à l'Ukraine le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne, c'était la priorité absolue.
Je le crois pour ma part.
Vous plaidiez
vraiment. Ah oui, ça j'ai beaucoup, beaucoup plaidé au Parlement. Je n'étais pas le seul, loin de là. Au contraire, il y a une sorte d'unanimité au Parlement. Mais véritablement, nous avons à quelques-uns organisé une bataille au sein du Parlement pour que le Parlement s'exprime, pour que le Parlement pèse le plus. Mais ce qui a fait évoluer les choses, soyons modestes, fondamentalement, c'est une perception dans toutes les capitales de l'Union européenne, et à Paris notamment, enfin à Paris entre autres, du fait que M. Poutine ne veut pas négocier. M. Poutine aujourd'hui ne veut absolument pas négocier. Alors il veut gagner, alors on ne sait pas, est-ce qu'il veut gagner tout le Donbass et ensuite accepter une négociation, ou est-ce qu'il veut gagner tout le Donbass, puis s'arrêter un petit peu et repartir à l'assaut de Kiev? Moi, je ne le sais pas. Et je pense que personne ne le sait en admettant que lui-même le sache. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il ne veut pas négocier. Et que donc, aujourd'hui, la priorité, et Emmanuel Macron l'a très bien dit, l'Ukraine doit pouvoir, je l'ai noté tout à l'heure, l'Ukraine doit pouvoir résister et l'emporter. Et là, il y a un changement de langage. Là, il y a un changement de langage parce que à Berlin comme à Paris, mais dans beaucoup d'autres capitales européennes, il y avait l'idée que, bon, étant donné que de toute manière la Russie est beaucoup plus forte, etc., il faut aujourd'hui, même au prix de concessions douloureuses, que l'Ukraine accepte, etc. Mais l'Ukraine, elle accepte, évidemment qu'elle accepte, elle demande depuis le début de l'agression, elle demande la possibilité de négocier avec la Russie, mais M. Poutine ne veut pas, il veut gagner la guerre.
Et pour gagner la guerre, il faut donner autre chose que des petites cuillères et des fourchettes aux Ukrainiens, donc livrer des armes. Il y a des annonces qui ont été faites en ce sens. À nouveau, 6 canons Caesar, c'est ça
Caesar, oui, oui.
Caesar, en plus
César,
des,
si vous voulez. César,
des 12 déjà livrés avec leur, alors que la bataille fait rage dans l'est du pays. Ça suffira, ça? C'est à la hauteur des attentes
Écoutez,
des
oui,
Ukrainiens.
Oui, ça commence à être important, d'autant que parallèlement, le chancelier allemand a annoncé une accélération de livraison d'armes anti-aériennes qui vont peser dans la bataille, et que parallèlement, les Américains ont annoncé 1 milliard de plus de soutien à l'Ukraine, pas seulement à son armée, mais largement à son armée. Mais tout cela, aussi capital, indispensable, nécessaire que ce soit, ce n'est qu'un changement quantitatif. Le changement qualitatif, politique, absolument fondamental, c'est l'acceptation de l'octroi du statut de pays candidat à l'Ukraine. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Dans l'immédiat, c'est parce que si on l'avait refusé, c'était un coup au moral des Ukrainiens et véritablement un petit triomphe politique pour M. Poutine, parce qu'il aurait entendu qu'on lui reconnaissait une sorte de droit au protectorat sur l'Ukraine, qu'on ne se mêlait pas des affaires ukrainiennes, nous, l'Union européenne, parce que c'était sa zone, etc. Mais à plus long terme, à moyen et long terme, ça signifie que M. Poutine nous a conduits, nous, les 27, les actuels 27 pays de l'Union européenne, à faire un pas d'une audace absolument gigantesque, qui est de dire, eh bien, oui, il va falloir envisager une deuxième vague d'élargissement. Il y a une dizaine de pays qui sont concernés là-dedans. Alors, ça ne signifie pas du tout l'élargissement le lendemain. Mmh. Pas du tout. Ça prend très, très, très longtemps, tout ça. Mais il faut nous mettre dans le sillon, prendre cette direction-là, et ça va impliquer une obligatoirement. Une réinvention de l'Union européenne, obligatoirement.
Alors, c'était inenvisageable, inimaginable il y a encore quelques semaines.
Ah, mais c'est le triomphe, c'est le triomphe, je le dis ironiquement, de M. Poutine. Enfin, il a ressuscité l'Alliance Atlantique, resserré les liens entre les États-Unis et l'Europe, mais surtout, il a révolutionné, et dans un sens très positif, l'Union européenne.
Patrick.
Non, un mot sur les canons César, c'est le fleuron de l'armée de terre française, c'est la pièce d'artillerie la plus sophistiquée. L'armée française en dispose de 76 unités. 12 ont déjà été envoyées en Ukraine avec des soldats ukrainiens qui ont été formés dans le midi de la France sur une base militaire française. Emmanuel Macron, aujourd'hui, en rajoute 6. Évidemment, vu d'Ukraine, ça peut paraître quelque chose de dérisoire. Mais voilà, la France donne à l'Ukraine, offre à l'Ukraine un quart de ce matériel dont dispose sa propre armée. C'est, je crois, pas seulement symboliquement, mais c'est assez fort, c'est assez puissant.
Des annonces essentielles et un changement de ton radical, vous le soulignez, Bernard Guetta, on entend, on écoute les mots d'Emmanuel Macron.
L'Europe, dès le premier jour de cette guerre, a su choisir avec clarté son camp, celui d'une Ukraine libre et souveraine, celui du respect du droit international, de la défense des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, que la Russie a fait le choix prémédité, délibéré, injustifié et injustifiable de violer. Nous allons aussi poursuivre et renforcer notre action pour que les crimes de guerre commis sur le sol ukrainien, dont le monde entier a été le témoin, ne restent pas impunis. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra, jusqu'à la victoire qui aura le visage du retour de la paix dans une Ukraine libre et indépendante, le visage opposé aux conséquences de la barbarie que nous avons vue ensemble ce matin à Irpin.
Jamais Emmanuel Macron n'avait utilisé un tel ton et de tels mots à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine.
Une telle enfilade de mots aussi durs, justifiés. Malheureusement, totalement justifié, mais aussi dur. C'est nouveau dans la bouche du président de la République, mais c'est nouveau pour Berlin, qui est là, qui est représenté par son chancelier. Et c'est même nouveau pour l'Italie, qui avait pourtant une position plus dure vis-à-vis de la Russie que ne l'avait le chancelier et le président de la République. Et là, on en revient au point de départ. Les capitales européennes se sont convaincues que M. Poutine ne voulait pas négocier, que M. Poutine voulait gagner, et donc il faut lui opposer une force militaire jusqu'au moment où il acceptera de négocier. Parce que naturellement qu'il ne s'agit pas de marcher sur Moscou, évidemment pas. Il ne s'agit pas du tout d'aller anéantir la Russie. Il s'agit de la ramener au-delà des frontières ukrainiennes.
En Russie, on fait mine de se moquer de cette visite qui ne sert à rien, qui est inutile, etc. Mais en réalité, comment Vladimir Poutine va percevoir, accueillir et les mots d'Emmanuel Macron et ceux du chancelier allemand ?
Je dirais que pour lui, c'est une mauvaise nouvelle de plus. C'est une mauvaise nouvelle de plus, parce que jusqu'à présent, il a toujours compté sur une désunion de l'Union européenne face à son agression. Alors, dans un premier temps, il s'est dit « Ah ben tiens, ça marche pas, mais ça va marcher bientôt. Ça va marcher bientôt, ils vont se diviser sur ceci, ils vont se dire… » Eh bien non, l'Union européenne ne se divise pas. Je suis désolé, l'Union européenne ne se divise pas. Et quand M. Orban, le seul ami politique que M. Poutine est au sein de l'Union européenne, le Premier ministre hongrois essaye de freiner les sanctions, etc., ben il sait très bien jusqu'où ne pas aller trop loin. Il sait très bien jusqu'où ne pas aller trop loin parce que ses amis de la majorité polonaise sont en train de le lâcher et il peut se retrouver privé de ses droits de vote, privé de subventions, privé de beaucoup de choses au sein de l'Union européenne.
Donc des déclarations, des mots très forts, de quoi faire oublier les propos d'Emmanuel Macron sur « il ne faut pas humilier la Russie », propos qui avait été tenu dans la presse quotidienne régionale le 4 juin dernier. Volodymyr Zelensky, lui-même, cet après-midi, a expliqué que ça y est,
la page est tournée.
Et Mohamed Bouafsi a interviewé, pour C'est à vous, le ministre des Affaires étrangères ukrainien à ce sujet.
I think he was clear, strong. And I particularly liked his words about the support to grant Ukraine or France to grant Ukraine with EU candidacy status, and his very clear words that Ukraine must win this war. The goal should be to make Ukraine win this war. And when President Macron said it today, it's inspiring.
Un commentaire.
Bien sûr. Le ministre des Affaires étrangères, il a noté évidemment que Macron a dit que désormais, l'objectif, c'était que l'Ukraine l'emporte, a dit le président de la République. Mais ça veut dire gagne cette guerre. L'emporter, ça veut dire gagner la guerre.
Il y a une autre annonce du président français qui a retenu votre attention, Bernard Guetta. Elle concerne l'exportation du blé ukrainien.
Voilà.
Alors que Moscou bloque tous les navires présents dans les ports ukrainiens depuis plusieurs semaines. Et là, le président français a carrément, si j'ose dire, convoqué l'ONU pour mettre la pression sur la Russie.
La crise alimentaire mondiale que nous traversons est une conséquence directe de la guerre menée par la Russie. Elle n'a pas d'autre explication. Nous appelons donc solennellement, ensemble, depuis Kiev, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, à accepter que les Nations Unies organisent l'exportation des céréales, ce qui nécessite d'accepter de lever le blocus des ports ukrainiens par la marine russe et d'apporter toutes les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de permettre justement la sortie de ces céréales.
Ça peut faire bouger les choses ?
Je ne sais pas, peut-être que oui, moi je ne l'exclus pas complètement. Mais là, M. Macron fait deux choses. Premièrement, il envoie un message au gouvernement et au peuple principalement du continent africain, parce que c'est eux qui sont principalement menacés par une famine à cause de ce blocage du blé ukrainien. Et deuxièmement, il met M. Poutine dos au mur. Parce qu'il lui dit, si vous n'acceptez pas, il le provoque là, publiquement, en lui disant, si vous n'acceptez pas que l'ONU organise la sortie de ce blé, etc., vous serez coupable de la famine. Et ça aussi, vous voyez, c'est très, très, très frappant. Parce que moi, je ne me souvenais pas d'avoir vu le président Macron, depuis le 24 février, ben, interpeller publiquement, au téléphone, il le fait énormément, bien sûr que oui, mais publiquement, interpeller Vladimir Poutine et le mettre dos au mur. Et en vérité, dénoncer ce qu'il fait, parce que ce que fait M. Poutine, en plus d'écraser l'Ukraine et d'y semer la mort et l'abomination, mais il fait un chantage à la famine mondiale. Véritablement, le secrétaire général de l'ONU l'a dit, et l'a dit à juste titre. Il fait un chantage à la famine mondiale. J'exagère, mais quand même, l'Afrique, l'Égypte, plusieurs autres pays du Proche-Orient, et sans doute aussi plusieurs pays d'Amérique latine.
Il y a un problème politique, c'est la levée du blocus. Il y a un double discours de Moscou, puisque Lavrov a dit la semaine dernière en Turquie, il n'y a pas de problème, nous pouvons laisser passer les navires.
À condition que vous nous laissiez bombarder Odessa. Oui.
Il a dit qu'il s'engageait à ne pas profiter de l'opération pour aller bombarder Odessa. Mais il y a un problème pratique, c'est le déminage de la mer Noire. Et ça, d'après les Ukrainiens, ça prendrait des mois. On ne s'en souvient pas, mais qu'à la libération, les plages françaises avaient été rouvertes après des années, en 1946 je crois, parce qu'il avait fallu des années pour déminer les côtes françaises et notamment les plages du débarquement.
Je ne sais pas, il paraît que maintenant il y a des techniques, oui, il paraît qu'on peut, je ne sais pas.
En tout cas, les Ukrainiens disent que ça prendrait au moins 6 mois.
La politique n'est jamais vraiment loin. Bernard Guetta, la visite d'Emmanuel Macron à Kiev à 3 jours du deuxième tour des élections législatives n'a pas manqué de susciter immédiatement des critiques de la part de ses opposants.
Tout doit être fait pour obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes. Maintenant, moi, je suis toujours prudent sur ces mises en scène. La diplomatie, ça se fait pas devant les écrans de télé à un grand renfort de publicité et de communication.
Personne n'est dupe sur le fait que c'est à 3 jours que ce déplacement dont on parlait beaucoup, à 3 jours du second tour qui va être déterminant pour la vie politique française.
Ça ne me choque absolument pas que le président de la République se rende à Kiev. Ce qui est peut-être plus contestable, c'est le fait de choisir d'y aller à 3 jours d'une élection législative. C'est-à-dire que je pense que le sujet de la guerre que la Russie fait à l'Ukraine, le sujet de la situation des populations civiles, vaut peut-être mieux qu'une suspicion d'instrumentalisation électoraliste.
Bonsoir Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National. Merci de votre présence ce soir. Une visite avec une arrière-pensée électoraliste, dit Marine Le Pen. Vu l'enjeu international, critiquer la date de cette visite, c'est pas un peu du pinaillage politicien ?
Non, mais il y a plusieurs choses. Il y a le fond et puis il y a la forme. Sur le fond, il y a une position assez contradictoire du président de la République, ou plutôt une position assez évolutive, on va dire. Le président nous disait il y a quelque temps il faut dialoguer avec la Russie, et maintenant il nous dit il faut que l'Ukraine triomphe. Moi, je crois qu'il faut faire attention, c'est un peu le « en même temps » du président de la République, et je pense que tout ça peut avoir un effet déceptif très fort, notamment pour les Ukrainiens. Nous, on n'est pas favorable à ce processus, notamment d'intégration à long terme.
D'adhésion à l'Union européenne, vous pensez qu'il ne faut pas…
Mais parce qu'en fait, on le fait sous le…
sauf ça ne peut pas être déceptif non, mais pour les Ukrainiens.
On le fait sous le registre de l'émotion. Et je pense que ce n'est pas réfléchi. Parce que demain, on peut aussi se poser la question, par exemple, de l'intégration de pays comme l'Arménie. Pourquoi pas? Parce que si le concept, c'est la démocratie ou d'avoir été un pays violenté, à ce moment-là, il n'y a pas de limite. Donc je pense que, sur le fond, Emmanuel Macron met le doigt dans un engrenage qui, sous le sceau de l'émotion, ne me semble pas particulièrement bien réfléchi. Et puis après, personne n'est dupe. Oui, nous sommes en campagne électorale et Emmanuel Macron se repositionne. Il aurait pu le faire lundi ou il aurait pu le faire un peu avant, notamment il est réélu quand même depuis plus de 2 mois. Il le fait aujourd'hui, il a besoin, personne n'est dupe, on connaît les astuces de communication du président de la République, on n'est pas des enfants. Voilà. Nous, on ne veut pas affaiblir la voix de la France, on l'a toujours dit. On peut être critique, mais Emmanuel Macron porte la voix de la France. Donc il porte la voix de la France, nous ne l'affaiblirons pas. On n'est pas complètement dupe de cette manip
on
de
est
com.
On est en campagne, qu'elle soit présidentielle ou législative, depuis 6 mois maintenant. La guerre en Ukraine, a été déclenchée le 24 février, quelle que soit la date choisie par Emmanuel Macron.
Le président de la République nous disait « je ne fais pas campagne parce que je suis tous les jours au téléphone avec Vladimir Poutine ». Et puis à un moment, le téléphone devait sonner occupé puisqu'il est revenu faire campagne. Bon, je veux dire, il y a quand même des réalités qui sautent aux yeux, personne n'est dupe. Souhaitons, c'est tout ce qui importe, que des solutions diplomatiques soient trouvées. Parce que de toute façon, cette guerre, elle est en train de s'installer, peut-être même de durer. Souhaitons que la situation soit diplomatique, parce que si ce n'est pas diplomatique, c'est la guerre de toute façon.
Un mot, vous vouliez réagir?
Écoutez, moi je ne comprends pas très bien, parce que cette visite à Kiev de 4 chefs d'État et de gouvernement, les 3 autres n'ont pas de campagne électorale, elle se fait une semaine avant le prochain Conseil européen, celui au cours duquel les 27 doivent décider d'octroyer ou non le statut de pays candidat à l'Union européenne. Demain, c'est-à-dire le lendemain même de cette visite à Kiev, la Commission européenne va rendre son avis. Bon, est-ce que vous croyez que M. Macron a organisé la date du dernier Conseil européen?
Oui,
du mois de juin.
Et je vais ajouter, monsieur, et si vous n'y croyez pas, vous êtes un peu naïf. Mais bien sûr que je pense que tout ça a été organisé par le président de la République. Ça aurait pu se faire au lendemain de son élection.
Mais
ça fait 2 mois qu'on entend pas le président de la République.
Ne vous
énerve pas.
Non, je ne m'énerve pas. Je m'afflige.
Vous restez affligé, monsieur.
Voilà, je vais rester affligé en vous disant qu'à la fin de chaque semestre de présidente tournante, il y a un Conseil européen qui se tient généralement une dizaine de jours avant la date de la fin. Et donc, M. Macron n'a rien décidé. Et quand bien même l'aurait-il souhaité, je vous rappelle qu'il y a 26 autres pays de l'Union européenne.
Cher monsieur.
On passera aux élections dimanche.
Vous pouvez penser que tout ça ne résulte que de procédures administratives. Moi, je pense que le président de la République fait de la politique. Il en fait en France. D'ailleurs, il y a un côté très fébrile.
Mais répondez-moi, c'est lui qui fixe la date du dernier Conseil.
Mais bien entendu, c'est lui qui organise avec les autres. Mais monsieur, il est en responsabilité aujourd'hui, c'est la présidence française de l'Union européenne. Il a toute capacité à gérer l'agenda.
Non, aucune.
Monsieur, laissez-moi terminer un propos.
Et puis, je veux dire,
laissez-moi terminer un propos, monsieur.
Vous dites n'importe quoi.
Monsieur, je ne mens pas. Vous ne donnez pas le rôle de celui qui sait. Vous n'êtes
mais si,
pas
je sais,
attendre,
vous ne
monsieur.
Savez pas.
Non, monsieur.
Je sais, en l'occurrence,
j'adore l'arrogance macroniste.
Mais c'est
vous
pas
êtes
de l'arrogance.
En train de vous tirer une
je
balle
connais
dans
les
le
institutions.
Continuez.
Je connais les institutions.
Monsieur,
vous ne
vous
les connaissez
pas.
Ou plutôt,
monsieur,
vous niez la réalité
monsieur,
des institutions.
Vous savez, je travaille au Parlement européen, mais monsieur, vous êtes entouré de cons.
Vous
ne
deviez
fait.
Pas.
C'est ça un peu le macronisme. Hein. On est entouré de cons qui ne savent rien. Monsieur, je vais vous dire.
Vous parlez
au bout du compte, c'est comme ça que vous nous considérez.
Non, vous parlez de vous.
Bah oui.
Ah bon, d'accord.
Oui, c'est ce que vous dites. C'est exactement la façon dont vous nous
non,
considérez.
Non, je parle de vous
mais
comme
je
un
vous dire, monsieur, je vais vous dire. Au bout du compte, à qui faudra demander? À qui faudra demander l'autorisation pour que l'Ukraine puisse intégrer ou pas l'Union européenne? À qui faudra demander l'autorisation? À qui faudra demander la permission, à votre avis? Aux Français. Il faut demander au peuple l'autorisation d'élargir cette structure européenne.
Mais il ne faudra pas du tout
ça,
demander aux Français, il faudra demander à 27 pays de l'Union européenne.
Dont
pas
les
aux Français,
cher,
bah, dont les Français,
dont
évidemment.
Les Français.
Mais pas aux
je
Français.
Je parle pour mon pays, monsieur. Mais c'est ça.
Mais oui, mais il n'y aurait pas les 26
Il faudra
autres.
Demander, rendre la parole au peuple français, que vous considérez formal comme ne sachant rien, ne connaissant
mais
rien.
Mais non, je considère que vous ne savez rien.
Que vous considérez formal.
Vous ne savez
mais
rien.
Cette arrogance, monsieur, vous,
je suis
en général,
pas arrogant, je
est
vous
le
signe
de fabrique de la macronie.
Je vous dis que vous ne savez rien.
Ou que
s'il
vous desserre un peu.
Bon.
Vous n'êtes pas un sachant,
mais pas du
monsieur.
Tout. Mais si.
Aux Français, vous leur demandez quoi, dimanche? De vous permettre d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale?
Pas seulement, Anne-Elisabeth Lemoine, pas seulement. Parce qu'un groupe, c'est normal. on représente, Marine Le Pen représente 42% des électeurs, ce serait anormal que dans une démocratie, avec un mode de scrutin qui nous est très défavorable, tous ces électeurs ne soient pas représentés. Mais pas seulement un groupe, d'avoir un groupe puissant pour pouvoir d'un côté contrer le président de la République, parce que sinon on va se faire enfiler tout le programme du président de la République sans pouvoir dire un mot. Il va faire avaler au Parlement européen, s'il a une majorité absolue, son programme sans pouvoir dire un mot. Et de l'autre côté, faire des propositions, parce que lorsque vous avez un groupe parlementaire, eh bien vous pouvez mettre en débat des propositions, par exemple, baisse de la TVA à 5,5 sur l'énergie. Mmh. On la met en débat, il y a un vote, chacun se positionne.
Et une loi sur l'islamisme aussi que vous voulez.
Une loi également sur l'islamisme, définir ce qu'est l'islamisme pour mieux le combattre. Oui, ce sont des nécessités.
Et qui comporte l'interdiction du voile dans l'espace public, mesure sur laquelle vous êtes largement revenu en fin de campagne présidentielle.
Ça, c'est une deuxième chose, il faut définir.
Dans le projet que vous avez présenté, il est présenté le projet.
Avant d'interdire le voile, il faut définir ce qu'est l'islamisme, l'islam radical, l'islam politique, comme on a défini d'ailleurs, vous le savez, dans notre pays, certaines idéologies et dont on a interdit fort heureusement les représentations. Donc oui, on sera là. Et si nous n'étions pas là, eh bien ces débats n'auraient pas lieu. Parce que c'est évidemment pas Jean-Luc Mélenchon qui va installer un débat sur l'islam politique, puisque lui, il préférait qu'on ouvre, comme l'a fait aujourd'hui le maire de Grenoble,
un plus grand nombre de députés dimanche.
Je ne sais pas, vous avez peut-être ouvert un cabinet de voyance, mais moi pas. Et je crois
qu'on a les résultats du premier tour en tête.
Justement, au premier tour, qu'est-ce qu'on nous a raconté ? Le Rassemblement national va être victime de l'abstention. Le Rassemblement national est le seul parti qui a augmenté son score en nombre d'électeurs et en pourcentage. 2017, 13%, 2022, 19%.
La seule force politique qui a progressé, Patrick l'a rappelé.
Oui.
Sur, vous dites que ce n'est pas Mélenchon qui va sur l'islamisme, non, mais sur le prix de l'énergie, oui. C'est aussi un axe de campagne assez fort de la NUPES, le blocage des prix et le blocage des prix de l'énergie. On en a parlé ici il y a quelques jours. Alors, ce n'est pas exactement la même proposition que la vôtre, puisque vous proposez de baisser la TVA, ce qui coûterait assez cher aux finances publiques. Eux, la proposition de la NUPES, qui était celle de Mélenchon auparavant, c'était le blocage et même le retour à des prix de l'essence moins élevés en faisant payer les distributeurs et les producteurs. Est-ce que vous pourriez voter ? Est-ce que vous pourriez vous retrouver sur une mesure de prix de l'énergie avec la NUPES ?
Nous, on propose autre chose. En fait, on ne propose pas. Bah oui, mais c'est quand même ça aussi notre marque de fabrique. On ne propose pas les mêmes solutions que M. Mélenchon. Mmh. Par exemple, moi, je ne suis pas favorable au blocage des prix. Oui. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien qu'avec la hausse du coût des matières premières, vous bloquez les prix. Bah, par exemple, un boulanger, il va devoir vendre à perte. Donc c'est totalement contre-productif, en particulier pour les PME, les TPE. C'est là où aussi M. Mélenchon a un programme qui est surréaliste économiquement. Enfin, je veux dire, ça va coûter non seulement un pognon de dingue, pour reprendre une phrase du président de la République, mais ça va créer de la souffrance, de la perte d'emploi, et ça va nous aliéner économiquement. Donc on ne propose pas les mêmes solutions. Quand on propose les baisses de la TVA, c'est parce que nous, on veut des solutions pérennes. La baisse de la TVA sur les énergies à 5,5 au lieu de 20%, à 5,5%, c'est une solution pérenne et je pense qu'elle est plus intéressante que distribuer des chèques au fur et à mesure que les Français ont du mal à mettre de l'essence dans leur voiture ou à se chauffer.
Bernard Guetta, vous aviez une question à poser ?
J'ai cru. À ce monsieur ? Non.
À Sébastien Chenu. En cas de duel LERM ensemble NUP, le Rassemblement national suggère à ses sympathisants de ne pas aller voter. En gros, vous poussez les Français à l'abstention ?
Non, madame, on est cohérent. En fait, on est cohérent. Nous, entre NUPS, c'est-à-dire l'extrême-gauche, qui dit que la police tue, l'extrême-gauche wokiste, l'extrême-gauche qui s'affiche avec des antisémites, et puis des candidats avec lesquels on a des désaccords profonds, la majorité présidentielle, on n'est pas d'accord, on combat cette politique ultralibérale et brutale d'Emmanuel Macron, on est cohérent, on ne choisit pas et on fait confiance à nos électeurs parce qu'on ne les instrumentalise pas pour faire ce qu'ils veulent. Vous savez, moi je ne crois pas beaucoup aux consignes de vote en réalité. Mmh. Vous savez, les gens, ils ont beaucoup de bon sens, ils font exactement ce qu'ils veulent et quand on leur dit vote pour un tel ou vote pour un tel, ils s'en remettent exactement à leur bon sens. Mais nous sommes cohérents politiquement. Pourquoi se mettre à dire allez voter pour des gens que nous combattons sont les autres, qui manquent beaucoup de cohérence dans ces cas-là ?
Non, juste une remarque. En fait, de politique ultralibérale, Emmanuel Macron est l'homme qui a décrété en France, face au Covid, le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire un investissement massif de l'argent public. Et deuxièmement, il est l'homme qui a convaincu, c'était une prouesse incroyable, Madame Merkel de convaincre avec lui les 25 autres pays européens d'emprunter, que l'Union européenne emprunte 750 150 milliards d'euros. Si vous appelez ça une politique ultra-libérale, je ne sais pas, cette table est un dromadaire.
Oui, cher monsieur, vous savez, nous ne venons pas, vous savez, moi je suis élu du Nord, dans un département dans lequel, par exemple,
puis par parenthèse, usines, cessez de m'appeler cher monsieur, je ne vous suis pas cher.
Même pas, collègue, si vous voulez. Mais chers collègues, moi vous savez, je suis un homme courtois, et je n'ai aucun mépris pour personne, et je pense que ça s'entend quand on vous entend et quand on m'entend.
Oui.
Et je vais vous dire, chers collègues, dans le Nord, la désindustrialisation, nous la vivons encore plus vite depuis qu'Emmanuel Macron est là.
Les usines se ferment.
C'est
une technique habituelle.
Vous ne répondez pas du tout à ce que je vous dis.
La question, c'était le quoi qu'il en coûte. Est-ce que c'est une politique ultralibérale?
Le protectionnisme économique, c'est-à-dire que c'est 600 milliards de dettes de plus. Ça, c'est autre chose. C'est un autre coup.
Ah, oui,
c'est 600 milliards de dettes de plus. Mais le protectionnisme économique...
Mais ça, c'est pas du tout l'ultralibéralisme. Bien ou mal, c'est pas de l'ultralibéralisme.
Mais arrêtez de me couper la parole. Vous savez, je sais que vous savez tout. Vous considérez que vous savez tout. Mais
ayez la courtoisie de
penser que d'autres peuvent penser autrement. Eh bien, je pense qu'effectivement, le protectionnisme économique, ce n'est pas une donnée qu'Emmanuel Macron a intégrée. Lui, il considère que le monde est un marché, que la France est un marché ouvert, qu'il déréglemente, qu'il dérégule. On l'a vu sur les transports en particulier, durant son quinquennat. Eh bien, ce n'est pas notre philosophie. Nous considérons qu'il faut protéger notre économie comme on doit protéger notre agriculture. Je ne crois pas que c'est ce qu'a fait le président de la
Monsieur
République.
Monsieur le président de la République s'est opposé à l'accord du Mercosur, s'est opposé à l'accord du Mercosur.
Il faut conclure parce qu'on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Mathieu.
Mathieu, on parle ce soir à nouveau de Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, visé par une troisième accusation d'agression sexuelle.
Une tentative de viol, un troisième témoignage, celui d'une femme qui reste anonyme mais qui est présentée comme une élue centriste. Une femme qui explique s'être reconnue dans les témoignages des deux premières accusatrices et qui raconte une agression dans le cadre d'une fête chez Damien Abad. Camille Schmitt et Emo Touré ont rencontré son avocate aujourd'hui.
Il lui propose un verre, elle l'accepte. Elle voit au fond du verre qu'il y a ce qu'elle identifie comme une saleté. Elle va aux toilettes, elle recrache sa gorgée, et quand elle sort des toilettes, elle tombe à ce moment-là nez à nez sur lui. Il la pousse, la fait entrer de force dans une pièce qui est en face des toilettes, et à ce moment-là, il lui fait basculer la tête entre son torse et son bras. Il lui pousse la tête en direction de son entrejambe. Il se met à proférer des vulgarités, c'est-à-dire qu'il lui dit à ce moment-là « Vas-y, suce-moi, tu vas la sentir passer, elle est énorme. » Et puis elle va essayer de se défaire. Et elle le frappe au niveau du ventre. Et surtout, à ce moment-là, il y a un convive qui fait irruption dans la pièce, qui donc lui permet de s'échapper.
Il faut dire que ces affaires dépassent les accusations et enquêtes. C'est bien sûr la place de Damien Abad au gouvernement qui est remise en cause à chaque fois. Regardez, écoutez comme l'exécutif est interpellé régulièrement, si ce n'est à chaque fois, sur ce dossier.
En attendant, vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les femmes. Pourquoi ?
L'égalité des droits. J'étais là en train d'en parler. Parce que je suis pour la libération de la parole. Et je l'ai accompagnée et je continuerai de l'accompagner, de la protéger. En même temps, pour fonctionner en société, vous devez avoir de la présomption.
Égalité père-mère.
Qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça ne vous dérange pas ?
Bien sûr que ça me dérange.
Et bien pourquoi il est encore là ?
Attendez, mais bien, attendez, madame. C'est pas moi qui... Moi, je suis pas juge, vous savez. Je suis pas juge.
Dans cette affaire, celle sur laquelle vous me questionnez, comme souvent dans ces affaires, l'enjeu, c'est ici l'établissement de la vérité. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire.
Les réponses d'Elisabeth Borne, notamment jugées insuffisantes pour nombre d'organisations féministes, aller porter plainte, ça ne suffit pas forcément.
En fait, Elisabeth Borne, elle dit pas seulement aux femmes d'aller porter plainte. Elle dit aux femmes d'aller se faire classer sans suite. Parce que c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Quand vous portez plainte en France pour des faits de violence sexuelle, par exemple pour harcèlement sexuel, dans 94% des cas, 94, donc c'est pas minorité, c'est 94% des cas, la justice va classer votre plainte sans suite. Lorsque vous portez plainte pour des faits de viol, c'est donc un crime, dans 70% des cas, la justice classe sans suite. Et Elisabeth Borne, elle connaît ces chiffres. Donc quand elle regarde cette militante et qu'elle dit en fait à toutes les femmes de ce pays victimes de violence, allez porter plainte, elle leur dit... Allez vous faire classer sans suite.
Alors, il faut dire que le timing pose question. Un troisième témoignage qui apparaît sur Mediapart en plein entre-deux-tours des élections législatives. Maître Bielkiewicz réfute toute manœuvre politique.
Ce n'est pas ma cliente qui a choisi ce calendrier. La journaliste de Mediapart qui a mené cette investigation, elle l'a menée pendant un an et demi. C'est-à-dire que ça sort maintenant, Mais ça fait un an et demi qu'elle est sur ces investigations. Donc, quand elle commence à enquêter, initialement, M. Abad, il n'est que député. C'est-à-dire qu'il devient ministre après. Derrière cette dénonciation, c'est véritablement éviter qu'il y ait d'autres victimes, parce qu'il y a cette immense culpabilité où elle se dit, encore une fois, peut-être que si j'avais parlé plus tôt, il n'y aurait pas eu d'autres victimes.
Reste que l'intéressé, Damien Abad, dénonce le calendrier de ces révélations, la motivation politique de la démarche. Les allégations, je le cite, rapportées me révoltent et je les réfute catégoriquement.
Votre sentiment, Sébastien Chenu ?
Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de tendresse pour Damien Abad politiquement. Il est la caricature de tout ce qui ne se fait pas. Premier opposant, il est devenu le premier allié à Emmanuel Macron. Ce n'est pas quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie politique. Il y a un truc que je déteste au-dessus de tout, c'est la justice médiatique. C'est-à-dire que sur des témoignages, on fonde une espèce, enfin, il y a une espèce de rouleau compresseur qui se met en marche et qui vise à écraser des gens. Alors que, d'un autre côté, évidemment, la parole d'éventuelles victimes doit être entendue. On est à la limite de deux choses. Il y a le droit qui dit qu'il y a une présomption d'innocence. Et moi, je crois qu'il faut être très, très attaché à cette présomption
donc
d'innocence.
Donc, Damien Abad reste au gouvernement.
Et il y a des personnes comme Mme de Haas qui disent qu'il y a une présomption de culpabilité. Et elle voudrait renverser le droit en transformant la présomption d'innocence en présomption de culpabilité. Je crois qu'en fait, le président de la République et Mme Borne se sont mis dans une sale situation. Parce que Damien Abad, visiblement, avait ces affaires-là sur le dos depuis un certain temps. C'est pas arrivé. D'ailleurs, les Républicains, Christian Jacob, dit on savait qu'il y avait déjà eu des trucs, des procès classés sans suite, des choses qu'il y avait. Donc, il avait ça sur le dos. Et moi, je pense que quand on a quelque chose sur le dos, on ne prend pas de telles responsabilités. Damien Abad a une responsabilité aussi d'avoir accepté cette fonction ministérielle.
Donc, on ne respecte pas la présomption d'innocence.
Mais on règle ça devant la justice. On règle ça devant la justice. Si on a des plaintes sur le dos, on les règle devant la justice, plutôt que de prendre des responsabilités qui, à la fois, vous entraînent vous-même dans une lumière très crue et qui vous mettent dans une situation qui, sincèrement, doit être très désagréable à vivre pour Damien Abad, mais qui gêne aussi toute l'action du gouvernement. Je rappelle que Mme Borne nous a dit qu'elle n'était pas au courant, puis après on a compris qu'elle était au courant que Damien Abad avait des histoires de ce style sur le dos. Bon, donc je pense qu'ils se sont mis dans cette situation. M. Abad aurait dû régler ses affaires et peut-être, et je l'espère pour lui, en sortir blanchi, plutôt que d'assumer des responsabilités gouvernementales qui mettent tout le monde dans la difficulté. Mais la présomption d'innocence, c'est quand même un pivot du droit à laquelle il faut rester attaché, sinon tout s'écroule.
Moi, je dirais en deux phrases qu'en France et dans le monde entier, et pas seulement en France, nous sommes dans une période de montée très saine, véritablement de révolte des femmes contre les violences sexuelles et contre le silence, souvent complice, qui entoure ces violences sexuelles. Alors, comme tout mouvement qui monte, qui s'affirme, eh bien, évidemment, ce mouvement connaît des excès, et parfois des excès choquants. Dans le cas présent, je ne sais pas, je ne sais rien, je ne suis pas juge, je ne connais pas le dossier, mais je sais en revanche que nous sommes ici, comme aux États-Unis et ailleurs, en Grande-Bretagne, etc., etc., dans cette double tension.
Et qui est assez complexe, effectivement.
Évidemment très complexe.
Alerte sur les dents des bébés ce soir dans le 5 sur 5.
Oui, et on va commencer par la conclusion de cette info. On ne met pas de soda dans le biberon des bébés. À la base, une enquête d'un média local dans les Hauts-de-France, Médiacité à Lille, les ravages du soda et des boissons sucrées dans les biberons des plus jeunes, très jeunes parfois. C'est une étude menée par une dentiste qui a exercé à Roubaix et qui a analysé les caries chez des enfants de moins de 6 ans. Les effets que vous allez voir sont écœurants. Vous les avez à l'écran. Hein. On parle de dents de lait. Camille Schmitt et Emo Touré sont allés voir l'Union française de la santé bucco-dentaire qui alerte les parents.
Dans toutes les catégories socio-professionnelles, on peut retrouver ce problème de carie du biberon parce que, par exemple, le jus de pomme, c'est plus sucré qu'un verre de cola. Il y a un risque aussi d'importance de formation de caries. Les caries, ce sont des maladies évitables. Dans la bonne hygiène bucco-dentaire, ce qui est excessivement important et indispensable, c'est d'utiliser un dentifrice qui contient du fluor. Parce que le fluor va rendre les dents plus solides et donc va éviter la formation des caries, va rendre les dents moins sensibles aux attaques acides qui se forment après chacune des prises alimentaires.
L'étude réalisée dans les Hauts-de-France démontre que les effets sont plus délétères dans les familles défavorisées. Les plus aisés vont alerter plutôt un médecin. Mais il ne faut pas résumer au coca en réalité. Même des biberons de jus de fruits sont sucrés. Les professionnels dénoncent de mauvais réflexes parentaux.
Les caries du biberon, ce sont des caries qui se forment dans la bouche des enfants qui ont un biberon à disposition tout au long de la journée. Eh bien, on voit clairement qu'il y a une disparition du volume des dents parce que la dent, elle a fondu sous l'effet du sucre et de l'acidité des produits présents dans le biberon. Alors, on a des cas plus extrêmes où là, il y a disparition complète de la dent. On est obligé d'extraire les dents de ces enfants parce que les caries ont atteint la racine et donc on ne peut plus les soigner. Et c'est un véritable problème parce que ces enfants qui ont moins de 3 ans ne retrouveront des dents qu'à partir de l'âge de 6 ans quand les dents définitives vont apparaître. Donc, vous comprenez qu'il y aura un problème en termes de mastication, en termes d'élocution, parce que c'est difficile de parler sans dents, et bien sûr, l'image de soi, parce que quand on n'a pas de dents, on n'a pas obligatoirement une très bonne image de soi.
Alors, des coca, des sodas, des jus de fruits sucrés, Iban Reiss et Anaïs Recouli sont allés en parler avec quelques parents aujourd'hui.
Ça vous arrive de donner du coca à votre bébé?
Ouais, ça arrive, ouais.
Pourquoi vous lui donnez ça?
Parce que tout le monde boit du coca.
Jamais. Un peu de jus d'orange, mais sinon de l'eau et c'est tout.
Et le sein, elle boit du lait maternel pour l'instant. C'est tout.
De l'eau, un jus de fruits naturel, hein, une petite citronnade.
En tant qu'auxiliaire de puériculture, je trouve ça pas normal de donner du coca à son enfant. Non, pas du tout.
Ma fille, mon petit-fils, ils ont des dents parfaites, mais ils n'ont pas vu tout ça.
Alors, plusieurs voix parmi les professionnels de santé appellent à une interdiction stricte des boissons sucrées aux enfants de moins de 6 ans ou à un étiquetage dissuasif sur ces boissons.
Un mot, Sébastien ouais. Chenu.
Quand on a peu de moyens, souvent, on se nourrit mal. Moi, je suis élu du Nord, je connais particulièrement cette problématique. C'est un chantier énorme que celui de mieux se nourrir et du suivi des enfants, notamment par des infirmières scolaires dans les établissements. C'est un chantier qui est devant nous, la malnutrition des enfants, notamment dans les classes populaires. C'est un chantier devant nous et je pense que là encore, on aura besoin d'élus pour pouvoir en parler demain.
On termine ce 5 sur 5 avec une information, une question qui agite la planète People. Kim Kardashian a-t-elle dégradé la robe de Marilyn Monroe?
Les experts sont formels, la réponse est oui. Retour sur le Met Gala de New York, la soirée annuelle du Metropolitan Museum de New York, c'était au début du mois dernier. Kim Kardashian portait une robe mythique que vous voyez là et qui avait appartenu à Marilyn Monroe. Pas n'importe quelle robe, celle qu'elle arborait en chantant « Happy Birthday, Mr. President » à Kennedy en 62.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you.
La robe appartient aujourd'hui à un musée privé à Hollywood qu'il avait acheté pour la modique somme de 4 800 000 dollars. On reproche aujourd'hui à ce musée d'avoir prêté la robe. Vous avez deux photos là, avant et après. On constate des petites déchirures dans le tissu, au niveau de la fermeture, dans le dos. Plusieurs petits cristaux aussi qui ornent la robe sont manquants. Sur les plateaux télé américains, on s'en donne à cœur joie au sujet de la Calipige, star de télé-réalité.
There really may be a thing as too much damn ass. Kim Kardashian's Met Gala outfit is still at the center of controversy.
The very risk of the dress being damaged would make me not want to lend the dress to any celebrity to wear.
You know, sometimes I feel bad for Kim Kardashian. When she doesn't wear clothes, people are angry. When she does wear clothes, people are angry. What's a lady to do?
She had a duplicate. She could have worn that. We could have said that that was the actual dress. Nobody would have known.
No, no. If I'm going to lose 16 pounds, you're going to shove me right into that dress, okay?
You know, sometimes you got a little too much ass for the old school dresses.
She ripped the fabric all the way down the zipper.
Wow.
Ah. Des remarques, des moqueries qui ne doivent pas faire oublier que celle qui revendique pourtant son postérieur, Kim Kardashian, s'est ouvertement astreinte à un régime des plus stricts pour pouvoir entrer dans
sa robe. Oui, elle a perdu un nombre de kilos incroyable en un minimum de temps. Merci beaucoup, Mathieu. Service. Merci à nos invités, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, Bernard Guetta, eurodéputé et spécialiste des questions internationales pour nous parler ce soir d'Ukraine. Dans un instant, le dîner de C'est à vous avec Céron, le pape de la disco, l'œil de pierre, Lucien Jean-Baptiste à l'affiche d'une comédie et les actualités de Bertrand. Bien sûr qu'on attend tout ça avec impatience. A tout de suite, on vous attend.